12h30 à l'écoute de France Culture. Le journal de la mi-journée, Antoine Mercier.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les dernières propositions de réforme présentées par la Grèce constituent un document raisonnable sur la forme et sur le fond. Les responsables de l'Union européenne font preuve d'optimisme avant le sommet extraordinaire ce soir à Bruxelles. Précision dans un instant de Quentin Dickinson, analyse Annabelle Grelier. Près de 200 actions d'éleveurs contre la grande distribution dans l'ouest du pays pour demander notamment l'augmentation du prix d'achat de leurs produits, récit Anne Lorchouin. Numéricable SFR qui confirme avoir fait une offre de rachat de Bouygues Télécom, le conseil l'administration du groupe de BTP se réunira demain pour examiner cette offre qui atteindrait les 10 milliards d'euros, dossier suivi par Arnaud Racapé. Ouverture à Paris du procès de l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, actuel patron du groupe bancaire Banque Populaire Caisse d'Épargne, François Pérol, poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Compte rendu de Marie-Pierre Véraud. À l'étranger, en Afghanistan, des rebelles talibans qui attaquent le Parlement de Kaboul ce matin. Les 7 assaillants ont été tués, commentaire d'Éric Biegala. L'invité du journal, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste dans la dernière partie, Caroline.
Nous rouvrirons le débat sur la gestation pour autrui en compagnie de la sociologue directrice d'études à l'UHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, Irène Théry.
Tout le monde semble croire à un accord prochain entre l'Europe et la Grèce. François Hollande estimait ce matin qu'un accord était à portée de main, même s'il restait des obstacles. Le commissaire européen aux affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, se disait convaincu qu'un accord sera trouvé dans la journée. La BCE décide en tout cas de ne pas débrancher la perfusion en liquidité qui alimente les banques grecques. Les marchés financiers bondissent, plus 3% ce matin à Paris, plus 7% à Athènes. Ce sont donc autant de signes. Quentin Dickinson, bonjour.
Bonjour.
Les réunions succèdent donc à Bruxelles toute la journée avant le sommet européen ce soir. Ce matin, M. Tsipras a rencontré les créanciers de la Grèce après avoir transmis de nouvelles propositions qui ont été qualifiées par Bruxelles de bonnes bases de progrès. La Grèce aurait fait des concessions, dit-on, sur les retraites et aussi sur la TVA. Et ça pourrait justifier les déclarations plutôt optimistes de ce matin.
Oui, la première phase de ce ballet diplomatique, qu'on pourrait qualifier de technopolitique, s'est donc déroulée ce matin entre Jean-Claude Juncker et Alexis Tsipras, rejoints par les représentants des trois institutions créancières. Dans l'ensemble, les propositions grecques, dont M. Tsipras est porteur, sont, vous le disiez, jugées bien plus sérieuses que les ébauches précédentes avancées par Athènes. Il y a d'abord la confirmation de ce qui était déjà connu, c'est-à-dire la fixation du taux normal de la TVA à 23%, assorti de deux taux réduits, l'un à 13% pour les aliments, l'eau, le gaz et l'électricité, et l'autre à 6% pour les médicaments et pour les livres. Il y a ensuite ce qui n'est pas encore connu à l'extérieur du petit cénacle des négociateurs, c'est le détail de la réforme de fond en comble du ruineux et inéquitable système des pensions de retraite. L'âge normal du départ à la retraite passerait ainsi par étapes à 67 ans, et les pré-retraites quasi automatiques disparaîtraient. La suite, qui commence en ce moment même, c'est la phase techno-technique. Les 19 ministres des Finances de l'Eurozone vont passer au crible les propositions grecques avant de céder la place ce soir au chef d'État et de gouvernement, phase politico-politique, pour un sommet spécial qui devrait durer une bonne partie de la nuit, pourvu que les conditions d'un accord au moins cadre soient réunies.
Merci beaucoup, Quentin Dickinson, donc à la mi-journée de tout ce qui se passe en ce moment à Bruxelles. Pierre Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été reçu ce matin à l'Élysée par le chef de l'État, une délégation de personnalités de gauche, de la société civile, notamment les signataires de cet appel publié vendredi dans Libération, et qui demande à la France d'être aux côtés du peuple grec. On va parler du fond, évidemment, mais un mot d'abord sur ce qui se passe à Bruxelles, puisque vous êtes directement informé ce matin par le chef de l'État. Est-ce qu'on peut croire dans cet accord qui serait à portée de main, selon vous ?
Je pense que l'accord est possible et que les propositions du gouvernement grec le permettent. Maintenant, il y a des obstacles encore parce qu'il y a des forces, des institutions ou des pays qui, maintenant plus ou moins ouvertement, cherchent plutôt la rupture. Donc il y a des forces favorables à un accord, mais il y a aussi des forces contraires. Il faut donc rester mobilisé. Je pense que s'il n'y avait pas d'accord, ça ne serait pas un problème pour la Grèce. Ça serait un problème pour l'Europe tout entière. C'est l'Europe tout entière qui entrerait en crise à ce moment-là.
On va reparler de tout ça, mais juste pour ce qui est de ce qui se passe en ce moment, est-ce que malgré tout, on n'a pas l'impression que la Grèce, que le gouvernement de Tsipras est en train de céder sur les points principaux, les retraites, la TVA, pour faire un affichage favorable aux thèses de l'Europe ?
Non, mais d'abord, il faut dire qu'il y a effectivement une attitude des institutions et des créanciers depuis le mois de janvier qui est parfaitement inacceptable et qui est une pression permanente sur le gouvernement pour qui a cherché à faire capituler le gouvernement gouvernement grec. Et il y en a qui le disent très ouvertement, comme le ministre des Finances allemand, qui dit c'est ou la capitulation, ou vous dégagez. Et face à cela, le gouvernement grec résiste. Il a déjà imposé la réduction de 3% à 1% de l'excédent primaire de son budget qui va lui être imposé. Donc il a déjà obtenu des compromis. Et puis il tient ferme sur deux questions qui sont importantes, et notamment l'exigence qui a été répétée par le FMI la semaine dernière de faire baisser le niveau des pensions des retraités, alors que deux tiers des retraités grecs sont déjà en dessous du seuil de pauvreté. À qui est-ce qu'on va faire croire que la Grèce pourra demain se porter mieux, se relever, rembourser ses échéances si on continue de taper sur les plus faibles en Grèce? Ça n'a aucun sens. Et économiquement, ça ne tient pas. On voit bien que la pression sur eux est une pression politique en vérité.
On reparle de tout ça, Pierre-Laurent. Comme l'expliquait Quentin Dickinson, il y a un aspect technique et puis bien sûr un aspect politique, et sans doute nous sommes dans cette phase. François Hollande parlait tout à l'heure d'un accord global et durable et non d'un accord partiel ou limité dans le temps. On l'écoute.
Si nous pouvons conclure ce soir, c'est mieux. Sinon, il faudra que les bases d'un accord soient posées ce soir pour qu'il puisse, cet accord, être obtenu dans les jours suivants. Je pense que la France et l'Allemagne sont conscientes que la Grèce doit rester dans la zone euro et en même temps que la Grèce doit continuer à faire des propositions pour qu'il puisse y avoir une solution durable. Parce que moi, ce que je ne veux pas, c'est que ce soit un accord partiel ou un accord limité dans le temps. Je suis pour un accord global et pour un accord durable.
Le chef de l'État, donc, il y a quelques minutes à Bruxelles, Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, en admettant que cet accord, effectivement, soit trouvé ce soir, de quel accord s'agirait-il? Autrement dit, de combien de temps aura-t-on réussi à repousser le problème de fond?
À chaque échéance, le même scénario. La Grèce fera-t-elle défaut? La Grèce va-t-elle sortir de la zone euro? Bref, de réunion de la dernière chance en réunion de la dernière chance, on voit bien que ce n'est pas possible. Aucun gouvernement ne pourrait relancer quoi que ce soit dans un pays sans cesse soumis à la fébrilité des marchés, l'intervention de la BCE, les menaces du FMI. Le gouvernement de Tsipras, depuis son élection fin janvier, élabore des réformes, mais il est tenu par ses créanciers qui en exigent d'autres. Les caisses sont vides, les fonctionnaires ne sont pas payés, l'économie marche plus qu'au ralenti. Sous la menace d'une faillite, les gens et les entreprises retirent massivement leur argent de leur compte en banque. Bref, c'est de la politique du pire tous les jours, un peu plus. L'accord qui se discute à Bruxelles doit être global et durable, donc déclarait tout à l'heure François Hollande, et non partiel et limité dans le temps. Il est sûr que l'échéance du 30 juin est loin d'être la dernière. Ensuite, il y aura l'échéance de la BCE le 20 juillet. Bref, il faut arriver à un accord politique pour se mettre d'accord sur la dette, une dette soutenable. Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a énuméré ce matin, son arrivée à Bruxelles, les clés d'un accord avec les créanciers. Ni excédent budgétaire excessif, ni baisse de retraite, ni hausse de l'électricité et rétablissement de la normalité du droit de travail. Pour y parvenir, Athènes propose, on l'a entendu également, de porter progressivement l'âge de la retraite à 67 ans en revenant sur un certain nombre de régimes d'exemption. Le gouvernement grec propose aussi d'appliquer un taux normal de TVA de 23%, un taux réduit de 13% sur l'énergie et les produits alimentaires et 6% sur les médicaments. Ça sent évidemment la concession, mais il en a obtenu aussi de la part de ses créanciers. Si on parvient à un accord sur les réformes, alors à charge pour Tsipras de discuter de la dette. Rappelons que le gouvernement grec réclame un allègement du fardeau de cette dette qui devrait atteindre 180% du produit intérieur brut du pays cette année.
Merci beaucoup Annabelle Grelier. À l'instant, Berlin affirme que le sommet de ce soir risque de n'être que consultatif. Déjà, Mme Merkel affirmait qu'il n'y aurait sans doute pas d'accord ce soir. Pierre-Laurent, je reviens vers vous. Comment comprendre ce bras de fer? Vous parliez de capitulation, vous parliez d'enjeux politiques, comme si on voulait faire céder politiquement la Grèce.
Oui, certains,
pourquoi est-ce que l'Europe céderait elle-même par rapport à ses propres critères économiques,
non, même si on peut les combattre? Mais ceux qui sont face à la Grèce ne sont pas l'Europe. Ils sont des gouvernements qui défendent des politiques libérales, mais il y a eu samedi dans toute l'Europe des manifestations de soutien aux Grecs. Il y a beaucoup d'organisations, d'associations dans le monde qui sont mobilisés aux côtés du peuple grec, y compris en Allemagne. Le principal syndicat allemand a exprimé sa solidarité avec le gouvernement de Syriza. Donc, en défendant les revendications du peuple grec, nous défendons le droit de chaque peuple européen à faire un choix qui n'est pas exactement celui effectivement dicté par les créanciers du FMI ou de la Troïka. Mais là, le débat politique qui existe en ce moment, d'ailleurs, est d'ailleurs de savoir si l'austérité est devenue une loi tellement importante qu'elle est au-dessus du choix démocratique des différents peuples européens. Donc, effectivement, ce que demandent les Grecs, c'est d'ouvrir une voie différente de celle qui leur a été imposée par les mémorandums depuis 5 ans. Et ils l'ont fait démocratiquement. Et si l'Europe veut être un espace démocratique, elle doit respecter ce choix.
Confirmation de ce que vous disiez tout à l'heure, ceux qui seraient plutôt favorables à pas d'accord. Le ministre finlandais affirme qu'il y a très peu d'espoir d'un accord ce soir, en tout cas, à Bruxelles. Toute dernière question.
Le gouvernement finlandais qui compte en son sein ou qui est sous la pression d'une extrême droite grandissante.
Donc ça veut dire
parce qu'il y a effectivement des gens qui poussent à l'éclatement de l'Europe, qui poussent au choc des nationalismes et des xénophobies en Europe. Est-ce qu'on va donner de la force à cela ou est-ce qu'au contraire, on va trouver une solution qui permettra à des peuples européens de retrouver l'espoir dans l'idée européenne?
Est-ce que les signataires de l'appel de vendredi cherchent à constituer une alternative à gauche en France, comme en Espagne ou en Grèce?
En tout cas, c'était pas l'objet de l'accord. L'accord est extrêmement, l'appel est extrêmement large. Il y a 60 personnalités qui l'ont signé, venues de toutes les sensibilités de la gauche sociale et politique. Mais il veut dire quelque chose, effectivement, pour la France aussi. C'est que les forces qui cherchent une voie alternative à celle de l'austérité sont de plus en plus nombreuses. Et moi, au plan politique, évidemment, je souhaite faire converger ces forces.
Pierre-Laurent, merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition.
Près de 200 actions d'éleveurs en colère dans le Grand Ouest la nuit dernière. Les éleveurs mécontents, s'en sont pris à la grande distribution en versant des tonnes de déchets devant les accès de nombreux centres commerciaux afin d'exiger l'augmentation du prix d'achat de leurs produits.
L'opération a été prise à l'initiative des jeunes agriculteurs. Elle touche la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Le président des jeunes agriculteurs de la Sarthe dénonçait ce matin la pression de la grande distribution, pression sur les prix versés aux producteurs et particulièrement pour le lait, le porc et le bœuf. Selon lui, il y a certains producteurs qui vendent par exemple le litre de lait 26 centimes alors que le prix de revient atteint au moins 34 centimes. Comment en arrive-t-on là, Anne-Laure Choin?
À cause de la guerre des prix bas, c'est l'analyse que font en tout cas les jeunes agriculteurs. Le fait est que plusieurs filières sont en crise, c'est le cas pour le lait, mais la semaine dernière c'était les abattoirs qui étaient dans le collimateur des éleveurs de viande bovine, accusés eux aussi de ne pas suffisamment se battre pour obtenir des prix rémunérateurs de la part des grandes et moyenne surface. Il semble en tout cas que quels que soient les cours mondiaux du lait, du porc ou du bœuf, les éleveurs français n'arrivent plus à compenser le coût de leur charge en hausse continuelle depuis quelques années par la vente de leur production. Faute d'organisation suffisamment solide pour négocier avec les acteurs majeurs de la grande distribution, faute peut-être aussi d'assez d'intervention de l'État qui réunit régulièrement des tables rondes entre acteurs de telle et telle filière sans jamais pourtant parvenir à enrayer la crise d'après. Il y a quelques mois, Stéphane Le Foll promettait par exemple d'encadrer les promotions trop basses de la grande distribution sur la viande de porc. Mais dans le même temps, des abattoirs de porc se voyaient signifier leur mise en liquidation judiciaire. Les éleveurs savent bien que la crise de leur filière est structurelle et que la cause n'est pas seulement imputable aux distributeurs. Mais ils font remarquer que l'observatoire des prix agricoles mis en place il y a quelques années a noté une augmentation continue des marges de la grande distribution alors que dans le même temps, les prix de vente continuent de baisser. Une grande distribution qui poursuit par ailleurs son phénomène de concentration et cela pèse aussi à la baisse sur les prix. Et puis il y a nous, consommateurs français, qui cédons trop souvent à la tentation du prix le plus bas. Prix le plus bas devenu désormais l'unique argument marketing de certaines grandes surfaces.
Anne-Laure Choin, merci. Pierre-Laurent, c'est quoi le problème de fond dans cette affaire?
C'est le problème que vous venez d'évoquer juste à la fin, c'est le problème des marges de la grande distribution. Nous avons déposé un projet de loi au Parlement pour encadrer les marges arrières de la grande distribution et ce projet n'est jamais venu en discussion. Et c'est ça le problème. J'ajoute que la concentration effectivement est extrême parce qu'il faut savoir que quelle que soit la taille des enseignes, quelle que soit la diversité des produits affichés, il y a en vérité aujourd'hui 4 centrales d'achat qui, à elles seules, font tous les prix de la grande distribution et de la distribution en France. Donc vous avez des milliers d'agriculteurs, des dizaines de milliers d'agriculteurs qui ont face à eux, en vérité, 4 centrales d'achat qui font toute la loi en matière de prix. Eh bien, il faut changer ce rapport de force et redonner du pouvoir aux agriculteurs pour faire respecter leurs revenus en fixant des prix d'achat de leurs produits qui soient plus hauts et qui permettront des productions de qualité. Parce que cette guerre des prix, il faut dire aussi, elle pousse à une dégradation de la qualité de l'alimentation.
Ce que vous dites là, peut-être en rapport avec le sujet suivant, vous parlez de quatre grands distributeurs. Eh bien, il y a aussi quatre opérateurs téléphoniques. L'opération propulserait, en tout cas Numéricable SFR, à la première place des opérateurs télécom en France, à la troisième en Europe. Altice confirme ce matin, en effet, avoir fait une offre de rachat de Bouygues Télécom via sa filiale Numéricable SFR. Bouygues, de son côté, confirme avoir reçu cette offre qui n'a pas été sollicitée de la part d'Altice, tout en indiquant qu'aucune négociation n'est en cours, mais quand même, il y aura un conseil d'administration de Bouygues demain pour examiner l'offre qui atteindrait, dit-on, 10 milliards d'euros. Arnaud Racapé, d'abord, est-ce que cette offre a une chance d'aboutir, cette opération d'Altice?
Alors, c'est difficile à dire à l'heure actuelle, Antoine. Ce qui est certain, c'est qu'elle est assez élevée, cette offre, pour être examinée de très près. 10 milliards d'euros, c'est 30 à 40% de plus que la valorisation actuelle de Bouygues Télécom. L'initiative de l'homme d'affaires franco-israélien Patrick Drahi, le patron d'Altice, intervient en tout cas 8 mois seulement après le rachat effectif pour 13,5 milliards d'euros de SFR par Numéricable, à l'issue, on s'en souvient, d'une longue bataille face à Bouygues Télécom, celle-là même qu'il souhaite désormais racheter. L'ogre Drahi n'est donc pas endetté, il est surendetté, commente ainsi un délégué syndical CFDT de Bouygues Télécom, traduisant les profondes et légitimes inquiétudes en interne sur l'emploi et sur la stratégie. Toujours est-il que, vous l'avez dit, si l'opération venait à se concrétiser, elle donnerait naissance à un géant des télécoms.
Aux yeux des pouvoirs publics, l'opération constitue en tout cas une menace pour les emplois, pour les investissements des opérateurs aussi dans les infrastructures. Michel Sapin mettait en garde contre les risques aussi qui étaient liés à l'endettement massif d'Altice. Vous y faisiez allusion. Bref, c'est un nouveau coup d'éclat de Patrick Drahi qui suscite quand même un certain nombre d'interrogations.
Par exemple, comment faire pour convaincre une banque de vous prêter 10 milliards d'euros alors même que vous êtes surendetté? Eh bien, il vous faut des garanties. C'est ce qu'a dû faire Patrick Drahi. Il y aura des réorganisations, une hausse des prix sans doute pour les clients. Mais in fine, il y aura des profits. C'est promis, nous pourrons rembourser les intérêts. Ensuite, on fait en sorte que la stratégie soit inattaquable. Le principal problème de Patrick Drahi, ce n'est pas le ministre de l'économie, mais plutôt l'autorité de la concurrence. En l'espèce, Drahi se couvre en impliquant le quatrième opérateur du secteur, Free, propriété de Xavier Niel, qui, dans cette opération, reprendrait une partie des fréquences et des boutiques de Bouygues Télécom. Patrick Drahi veut en réalité profiter de la faiblesse actuelle des taux d'intérêt pour faire marcher à plein ce que l'on appelle l'effet de levier, à savoir se développer par l'endettement pour optimiser ses capacités d'investissement, au risque, bien sûr, d'exploser en vol. C'est ce qui était arrivé à Vivendi au début des années 2000.
Arnaud Racapé, merci beaucoup. Pierre-Laurent, encore un mot peut-être là-dessus?
Est-ce que l'État peut quelque chose? On a un bon résumé de l'état du monde. On commence par la Grèce. On est incapable, soi-disant, de trouver 1,5 milliard pour aider les Grecs où il y a 10 millions d'habitants, pour sauver une population de 10 millions d'habitants. Mais par contre, quand un spéculateur comme Drahi frappe à la porte des banques alors qu'il est déjà surendetté pour aller faire des opérations financières à 10 milliards d'euros, là tout le monde est au rendez-vous. Et je pense que ce qui est en train de se passer est parfaitement scandaleux, parce que quand même les chiffres donnent le tournis. D'où Drahi tire son argent? De nos poches, parce que cet homme s'enrichit dans la téléphonie et c'est nous qui payons, parce que ça ne tombe pas du ciel,
c'est pas un problème.
Et du secteur bancaire. Donc on voit bien que... Et pour faire quoi? Pour faire des opérations de spéculatives
qui survalorisent. Mais pourquoi on lui prête? Pourquoi les banques lui prêtent?
Le système s'auto-nourrit. Et c'est ces gens-là qui, à l'arrivée, nous plongent dans des crises financières comme 2008. Et le système bancaire préfère, quand on nous dit qu'il faut sauver les créanciers de la Grèce, c'est ceux qui sont en train de prêter de l'argent à Drahi qu'on est en train de sauver. Nous disons qu'il vaut mieux baisser les prix de la téléphonie pour le plus grand nombre et sauver les Grecs plutôt de continuer à sauver ces gens-là.
Merci beaucoup, Pierre-Laurent, d'avoir accepté notre invitation.
À propos de banque, le procès de l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy et actuel patron du groupe bancaire Banque Populaire Caisse d'Épargne, François Pérol, s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est poursuivi pour prise illégale d'intérêt.
Il est reproché en effet à l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée d'avoir accepté en février 2009 de prendre la tête du groupe qui était issu du mariage entre la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne, alors qu'il avait suivi précisément cette fusion quand il était à l'Élysée. Le code pénal interdit, on le sait, un fonctionnaire ou un agent public dans un délai de 3 ans de travailler pour une entreprise qu'il a surveillée, avec laquelle il a conclu un contrat, sur laquelle il a donné des avis ou proposé des opérations à l'autorité compétente. Peine maximale encourue par M. Pérol, 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
Comment à l'Élysée on a pu laisser commettre une telle infraction ou une telle erreur?
Mais encore eût-il fallu que dans l'esprit des principaux acteurs de cette affaire, il y ait infraction. Or, cette
conscience n'apparaît pas de façon manifeste. D'abord, le contexte, crise financière, urgence, et comme le dit l'un des protagonistes, à l'époque, c'est à l'Élysée que tout se décidait. Et la volonté politique était souveraine. Et puis, il y a aussi le paysage éternel français, les liens étroits entre les grands corps de l'État et les grands groupes privés. Le parcours de François Pérol, inspecteur des finances, passé par la direction du Trésor, est à cet égard exemplaire de ses allers-retours permanents. Entre le milieu bancaire et les hautes sphères de l'État, François Pérol suit d'ailleurs ce dossier attentivement dès 2003, lorsqu'il officie à Bercy au cabinet de Francis Maire, puis 2 ans plus tard, lorsqu'il rejoint comme associé la banque Rothschild. Enfin, c'est le François Pérol, secrétaire général adjoint de l'Élysée chargé de l'économie, qui le finalisera en 2009. L'État doit renflouer Natixis, l'Élysée décide de fusionner les 2 maisons-mères et impose François Pérol à la tête du nouvel ensemble, comme le relate un témoignage assez édifiant joint au dossier d'instruction. C'est à partir d'échanges de mails plutôt savoureux relatant les conversations entre cabinets d'avocats, banquiers, hauts fonctionnaires et conseillers de cabinets ministériels ou de l'Élysée, dont François Pérol, à partir aussi de la 10aine de notes de François Pérol au président et des 14 convocations des banquiers dans son bureau entre octobre 2008 et février 2009, que le juge Leloir s'est peu à peu forgé une conviction. François Pérol est bien à la manœuvre, mais il n'a pas imaginé un seul instant saisir la commission de déontologie, comme c'est pourtant la règle. Pas la peine, il a, dit-il, réfléchi, passé quelques coups de fil, demandé son avis personnel au secrétaire général de la commission, puis, je le cite, « En conscience, j'ai décidé que je pouvais ne pas saisir la commission de déontologie avant ce matin à la barre de protester de son respect le plus total de l'éthique. » Ce procès, a prévenu le président ce matin, sera celui d'un homme, pas d'un système.
Marie-Pierre Véraud.
L'actualité à l'étranger avec cette attaque ce matin des rebelles talibans contre le Parlement de Kaboul. Un kamikaze au volant d'une voiture piégée a lancé l'assaut en faisant exploser son véhicule juste devant les grilles du Parlement, situé à l'ouest de la capitale afghane.
Les 15 personnes qui se trouvaient dans les rues environnantes ont été blessées. Les 7 assaillants, eux, ont été tués, abattus par les policiers. Donc, les talibans qui ont récemment lancé leur offensive de printemps, qui s'est traduite notamment par d'intenses combats dans plusieurs provinces du pays, ainsi que par une série d'attaques à Kaboul. Ils ciblent généralement donc la police et l'armée, mais s'en prennent aussi à des lieux fréquentés par des étrangers. Eric Biegla, je crois qu'il faut rappeler leurs objectifs.
Alors, comme toujours, Antoine, avec les talibans, ces objectifs sont assez difficiles à décrypter, du moins au premier abord. Mais ce que l'on remarque, d'abord du point de vue militaire, c'est que l'offensive de printemps de cette année, lancée dès le mois d'avril, est beaucoup, beaucoup plus large que celle des années précédentes. Cette année, les attaques ont lieu non seulement dans les provinces et districts du sud du pays, traditionnellement bastion des talibans, mais aussi dans l'est, ainsi qu'au nord, autour de la ville de Kunduz, à la frontière avec le Tadjikistan. Ce matin d'ailleurs, un second district de la province de Kunduz était annoncé comme étant tombé ce week-end aux mains des talibans. Sans parler évidemment de l'attaque contre le Parlement, en plein cœur de la capitale ce lundi matin. Une attaque qui prouve la capacité des talibans à lancer des opérations un peu partout dans le pays et surtout en même temps. En multipliant ces attaques et ces fronts, les combattants talibans profitent évidemment du retrait militaire des Occidentaux depuis décembre dernier. L'armée afghane, qui est aujourd'hui censée les combattre seule, a bien du mal à coordonner ses opérations de défense dans tout le pays. Ces attaques multiples l'oblige à une dispersion de ses forces, ce qui permet aux talibans de remporter ici ou là quelques succès et de prendre du territoire. Mais parallèlement, les talibans sont aussi entrés dans une phase de négociation. Au Qatar, notamment le mois dernier, les talibans ont pris langue avec nombre de représentants afghans, chefs de parti, anciens rivaux tribaux, voire quelques hauts fonctionnaires et même l'oncle du président Ashraf Ghani. Des discussions informelles pour le moment qui pourraient bien se transformer en une véritable négociation de paix, peut-être à l'automne, après la saison des combats. D'ici là, il s'agit pour la force talibane de gagner du terrain, histoire, c'est un vieux classique, d'arriver à cette table de négociation en position de force.
Eric Biegala, les djihadistes de l'État islamique auraient miné le secteur historique de Palmyre, où se trouvent donc ces ruines romaines monumentales. C'est ce qu'annonce ce matin l'Observatoire syrien des droits de l'homme. On ignore pour le moment s'ils ont l'intention de les détruire ou s'il s'agit simplement, si on peut dire, de dissuader l'armée syrienne de chercher à reprendre la ville de 50 000 habitants, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, tombée au mois de mai dernier aux mains des djihadistes. C'est sans surprise que la justice indonésienne a rejeté ce matin le recours en grâce de Serge Atlan. Oui, comme elle l'avait fait pour les autres étrangers condamnés à mort pour trafic de drogue, donc en Indonésie. La forte médiatisation du cas du Français avait permis à celui-ci de gagner un sursis in extremis. Son exécution était prévue pour fin avril. Et aujourd'hui, les services du procureur général déclarent que Serge Atlaoui ne sera pas exécuté pendant le mois de Ramadan, délai pendant lequel donc les avocats de Serge Atlaoui vont tenter d'autres recours, même si le parquet indonésien estime que le Français ne peut plus maintenant faire appel. La météo, un temps pluvieux au nord et toujours ensoleillé au sud avec des températures qui vont aller de 14 à 32 degrés. C'est la fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.